voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
À l'occasion de la Fête des Mères, Canal Academy vous invite à découvrir des textes d'académiciens évoquant la figure maternelle. En premier lieu, retrouvez ici des extraits du livre « Jeanne », écrit par Jacqueline de Romilly, élue en 1975 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et en 1988 à l'Académie française. Ensuite, vous pourrez écouter des extraits des contes et récits de Maurice Genevoix, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française. Tout de suite, le livre « Jeanne » de Jacqueline de Romilly. C'est en 1977, année à laquelle Jeanne Malvoisin, la mère de Jacqueline de Romilly, décède, que l'académicienne commence à rédiger son livre « Jeanne » qui sera publié après sa mort le 18 décembre 2010. Ayant perdu son père très jeune, Jacqueline de Romilly a entretenu avec sa mère une relation très forte. Les batailles, les chagrins, les ruptures, les recommencements que cette mère a traversé sa vie durant ne l'a jamais écartée de son désir le plus profond, le bonheur de sa fille, Jacqueline. Cette veuve de guerre devenue femme de lettres était, écrit Jacqueline de Romilly, beaucoup plus rebelle et audacieuse que ne sont nos filles en blue jean. La comédienne Anne Delbé lit ici plusieurs extraits choisis du livre « Jeanne » et vous fait pénétrer dans l'intimité de Jacqueline de Romilly et de sa mère, Jeanne.
Dans ce jardin loin de la guerre, tout est paisible. La petite fille grandit. Elle a de jolies robes que lui a faites Jeanne. Et il y a d'autres petites filles avec qui elle joue. Des petites filles parisiennes, elles aussi, qui sont là avec leur mère. Jeanne n'est pas seule. En 2 ou 3 ans, de nouvelles amitiés sont nées. Elle doit être une jeune femme si pitoyable et si attachante, cette petite veuve toute seule qui refuse de se plaindre. Il n'est pas une personne, de celles qui l'ont connue alors, qui ne lui soit restée fidèle. Les images me la montrent souvent entourée. D'ailleurs, qui eût photographié sa solitude? Et pour qui? Je la vois sur des quais de gare, tranquille, avec d'autres dames. Les maris des dames venaient parfois en permission. Ils étaient attendris par Jeanne, peut-être même un peu trop. La guerre facilite les attendrissements et les rend si inoffensifs. Ses exigences étaient à elle. Elle n'avait ni fondement religieux, ni modèle dans un être cher. Elles étaient sa vie même, mais en même temps, elle n'avait rien non plus d'agressif ni de morose. Tout le drame de sa jeunesse, mal entourée, ne se traduisait que dans ce petit sourire à part, dans ce regard déjà ironique et dans ce tendre mouvement de retrait de quelqu'un qui ne veut plus que l'on vienne le blesser. Mais il n'empêchait ni la grâce, ni l'acceptation des êtres et des choses. Il n'y a jamais eu de drame avec son père, ni de querelle avec son frère. Il n'y eut même plus de difficultés particulières avec la jeune femme qui remplaça sa mère et qu'à sa façon, elle aimait bien. Il y avait seulement, disons, une grande attente de quelque chose de mieux et de quelqu'un de meilleur qui, plus tard, répondrait à cette aspiration. Seule, résolue, elle croyait au bonheur à venir et entendait, ne sans pas laisser détourner par une imprudente compromission avec le présent. D'ailleurs, Jeanne a toujours réagi aux épreuves avec cette même confiance obstinée dans l'avenir. Tous les jours, jusqu'au dernier de sa vie, elle a écrit. Qui plus est, quand ses manuscrits cessèrent d'être acceptés et de lui rapporter de l'argent, elle ne voulut plus rien dépenser pour leur dactylographie. Elle avait toujours un peu tapé à la machine, sans avoir appris, et en utilisant très peu de doigts. Elle se mit alors à tout copier elle-même. Et souvent, elle recommençait, elle réécrivait tout un roman, soit pour tenir compte de critiques qu'on lui avait faites, soit parce qu'il lui était venu une nouvelle idée, soit simplement parce qu'elle trouvait que les exemplaires disponibles étaient pâlis et laissaient voir leur âge, alors qu'elle désirait leur donner une nouvelle chance. Jeanne avait alors passé 70 ans, bien qu'elle ne voulût ni le savoir, ni le laisser voir. À cet âge, taper à la machine est une fatigue. Mais elle décidait de le faire, et elle le faisait. Elle se fixait même un délai, comptant par exemple que, pour obéir à son plan, elle devrait copier 15 pages par jour. Et je la trouvais, à sa petite table, tapant et comptant ses pages, le dos endolori et les yeux fatigués. Il est caractéristique de son irréductible ténacité qu'elle n'ait pas une seule fois manqué à cette tâche quotidienne, pourtant ingrate et peut-être inutile. Elle aurait plutôt refusé n'importe quel plaisir, même avec moi. Mais il est plus caractéristique encore que, procédant de la sorte, elle est toujours tentée de s'avancer. Elle gagnait ainsi, par rapport à son calendrier, 3 pages tel jour, qui devenaient 10 pages d'avance le surlendemain. Et quand j'entrais chez elle, elle relevait une tête épuisée et ravie, me disant « J'en ai fait 2 de plus !» Moi qui savais que ce travail serait probablement vain, j'avais le cœur serré par sa fierté. Mais elle, qui le savait aussi, n'en montrait pour cela ni moins d'ardeur, ni moins de joie. J'ajoute que, sous l'effet de la fatigue, elle tapait, les dernières années, de plus en plus mal. Cela aussi me serrait le cœur. Mais sa ténacité, elle résistait à tout.
Vous venez d'écouter la comédienne Anne Delbé réciter quelques extraits du livre Jeanne que Jacqueline de Romilly a consacré au souvenir de sa mère. Rejoignons maintenant Virginia Crespo qui va nous faire découvrir les relations qu'entretenaient Maurice Genevoix et sa mère.
Maurice Genevoix de l'Académie française lui aussi évoque sa mère dans les pages du dernier chapitre du tome 6 de ses Contes et récits. La nature occupe une grande place dans la vie et dans l'œuvre de cet écrivain qui fut élu secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1946 et à qui nous devons entre autres Rabolio, Marcheloup, Tendre bestiaire, 30 000 jours. La nature des bords de Loire, à Châteauneuf, dans le village de sa mère, a bercé son enfance et sa jeunesse. Une jeunesse très douloureusement marquée par la perte de sa mère, alors que le jeune Maurice n'avait que 12 ans. Le veuvage de son père le laisse esselé. Il trouve cependant un réconfort dans cette douce nature du Val de Loire, où il passe son temps libre et où il puisera l'inspiration de ses futurs récits, Rémi Desroches, La boîte à pêche, Agnès, La Loire et les garçons. De cette perte, il gardera une éternelle déchirure qui transparaîtra dans plusieurs romans. Plus tard, à un âge avancé où l'on renoue avec les âges de sa vie, écrira-t-il, il se souviendra de l'adolescent révolté qu'il fut face à la perte du repère maternel. Voici la lecture de ces pages, belles et émouvantes.
Dès que s'entr'ouvrit la porte et que j'entrai dans l'ombre du vestibule, je me sentis saisi, étreint, celle des larmes, bruit des sanglots. Ils étaient tous réunis là, m'attendant, eux-mêmes déchirés, pleins de pitié, de bonté tendre. Je le sentais, et sans doute à plein cœur. Mais dès cet instant-là, la violence de ma révolte, l'âcreté d'une peine sans mesure, farouchement égoïste et jalouse, me poussa à une fuite intérieure, à un nouveau refus douloureux, contre lequel je ne pouvais rien. Le temps juste de l'avertir, mon père apparaissait, le visage ravagé, tenant mon jeune frère par la main. Je me mis à trembler de tout mon corps, pressentant ce qu'il allait dire. Mais là encore, je ramenais tout à moi. Comment comprendre cette peine d'homme à qui la mort vient d'arracher une jeune femme naguère si vivante, en une heure massacrée, peu à peu minée, perdue. Il parle, sa voix fléchit. Chaque mot pénètre et brûle inoubliablement. Dans chacune de ses mains, il tient, il serre l'une des nôtres. Il parle d'elle. Il dit « Votre maman sourit. » Je n'ai point cessé de trembler. Voici la porte de notre maison, l'escalier, la porte de la chambre, de sa chambre. Aux fentes des persiennes closes, des lames de soleil immobiles. La flamme des bougies sur la table de chevet n'a pas le moindre frémissement. Mains de cire qu'on a jointes et nouées, masque de cire aux paupières closes, lointain, absent. Où ta chaleur? Où ton sourire? Où toi, maman? J'ai touché de mes lèvres ce froid terrible. Et c'est à cette minute, j'en suis sûr, que sous les affres de mon chagrin, au sursaut lancinant d'un désespoir qui me fait hurler, quelque chose a commencé de sourdre, que je ne pouvais soupçonner, mais qui allait persister, grandir, et désormais m'accompagner, tutélairement, toute ma vie. Être affronté, à cet âge de crise difficile, aux abîmes de la souffrance humaine, c'est une épreuve presque meurtrière, une tragédie secrète où se déchaînent terriblement, déjà, tous les démons de la solitude. Je n'étais que révolte pantelante, furieusement raidie contre tous les recours, toutes les consolations des gestes, des paroles, des regards. Et pourtant, aujourd'hui, après tant d'années, je sais que ce quelque chose dont je parlais il y a un instant, ce quelque chose qui était en moi, qui rejoignait tous mes souvenirs d'enfant, ma tendresse, ma confiance, mon bonheur de petit garçon inséparé de sa maman, cette promesse de recours secret entre elle et moi, qui avait rayonné d'elle à moi, elle m'était dès lors obscurément, mais tout est d'avance donné. Il est vrai qu'il m'aura fallu, pour en prendre peu à peu conscience, bien des années, pour en être sûr, davantage. On nous avait conduits auprès d'une famille amie, dans une maison sans deuil, aux fenêtres grandes ouvertes. C'était le même ciel rayonnant, autour de nous des visages de chaque jour, familiers, devenus tout à coup incompréhensiblement étrangers. Étrangers leurs regards, leurs mains sur mon épaule, leurs paroles. Pas une d'elles qui ne me révolta. Me consoler. De quoi prétendait-il parler? De quoi osait-il me parler? J'avais fui leur maison, leur jardin en terrasse où nous avions tant joué naguère et qui me ramenait intolérablement vers le temps à jamais révolu où je n'étais pas orphelin. L'on me retrouva dans une grange, si pâle que ces bonnes gens s'effrayèrent, me ramenèrent chez mes grands-parents. Il fallut me coucher, clore les volets, clore les rideaux sur la lumière, me laisser seul, tant mes prières devaient avoir de suppliantes ardeurs. C'était une étroite petite chambre entre deux chambres plus spacieuses. Étroite aussi, la couchette où je me tenais étendu. Autour de moi, enfin, le silence. Peut-être me semblait-il, de loin en loin, que la porte s'entrebâillait et se refermait très doucement, qu'une carriole passait dans la rue, que le jour baissait peu à peu. Mais je refermais les paupières, je les tenais serrées sur des larmes que je ne sentais plus couler. Le seul incident du dehors dont je me souvienne réellement, c'est l'arrivée d'une jeune sœur de ma mère, mariée 2 mois auparavant. Elle arrivait de Paris par l'avant-dernier train du soir. Je l'aimais bien. Elle avait voulu m'embrasser. Il devait être 5h30. Elle apportait sur ses vêtements la fraîcheur du soir de printemps. Elle était là. Elle pleurait. Plus jeune de 10 ans que ma mère, elle m'effleura le front. Ne dis rien. Me quitta au moment même où j'allais le lui demander. Je retrouvai le seul tête-à-tête qui me fut alors tolérable, plein d'âcreté, traversé d'images fulgurantes dont chacune portait blessure. Et pourtant, l'eussais-je pu, je n'aurais pas demandé grâce. Il me semblait que je devais cela, que ma souffrance même portait en elle intercession, que son amertume corrosive ne serait jamais assez grande pour conjurer, pour atténuer. Et soudain, comme un coup de bien loin plus lourd et plus brutal, le sentiment de l'inéluctable m'ébranlait jusqu'au fond des moelles. Alors la révolte montait. Je me laissais rouler par elle. Je sentais comme jamais la maigreur des pauvres bras qui m'avaient si chaudement attiré, étreint. Dans l'amour du regard dont elle m'avait enveloppé tant de fois, je lisais à présent toute nue la tristesse des séparations sans retour. Remontant le cours des mois, j'allais découvrant une à une les premières atteintes visibles du mal qui la menaçait. J'étais plein de regrets, ou plutôt d'un affreux remords, comme s'il eût dépendu de moi, alors qu'il en était temps d'écarter la mort qui rôdait. Comme elle aimait la vie. Son rire soudain, sa gaieté, sa jeunesse. Je devenais son grand garçon. Pas encore assez courageux, mais cela viendrait. Je saurais, je l'aiderais, je la garderais. Perdre les morts. Ainsi, oui. Parlaient les autres. On ne peut pas perdre sa mère, on n'en a pas le droit. Et déjà, je disais à bouche close, la gorge amère, les yeux brûlés, le cœur confiant. Tu verras. Mais ce fut elle qui revint vers moi, dans mon sommeil. C'était bien là son sourire même, et non plus sa gaieté légère, mais sa joie de revenir ainsi, de me surprendre, de me retrouver, de m'aimer. Était-ce rêvé ? Pas tout à fait, car sa présence s'accompagnait d'une sensation de réalité, d'une certitude consciente et stable qu'aucun rêve ne m'a jamais donnée. Mais je dormais. Les larmes me tiraient du sommeil, me laissant un sentiment de joie partagé, ineffable, qui ne cédait point au réveil et qui persistait longtemps. Et vint l'époque où ces retours nocturnes s'espacèrent et cédèrent tout à fait, car il n'en était plus besoin. Les mois passaient, puis les années. Nous nous habituions l'un à l'autre, chacun à un être nouveau. Elle au jeune homme, au soldat, à l'écrivain, à tous ces hommes que l'on croit, d'étape en étape, devenir. Mais en qui elle reconnaissait, elle seule, l'homme que j'étais dans ma continuité, son fils. Période étrange où, de mon côté, mon instinct le plus fidèle refusait tout ce qui, temporellement, eût risqué d'altérer la vérité d'une ressemblance de plus en plus sûre, ou seulement d'attenter à son affirmation vivante. S'il arrivait qu'une référence à la collectivité familiale, à son décours quotidien, évoquât quelque incident passé à quoi il eût été mêlé, si tel récit du folklore domestique lui attribuait alors quelques menus travers, une malice, une susceptibilité, je n'en étais jamais atteint, car je savais que ce n'était pas vrai. Revenir vers elle de cette façon, dans cette réalité dépassée, c'était croire qu'on l'avait connue sur la foi de fausses apparences. J'écoutais, ne détrompais personne, mais la retrouvais d'un élan dans sa réalité la plus vraie, la seule vraie, toute présente, jeune, bien portante, sereine, égale, maternelle. Seulement, mais toute maternelle. Je ne dirai qu'un souvenir, pour tous les autres. Je me rappelle, par certaines nuits meusiennes, les rares instants de solitude que toléraient alors nos travaux et nos jours. Lorsque mon bataillon prenait les secondes lignes au carrefour de Calonne, nous popotions au carrefour même. La dernière pipe fumée, le dernier fond de car avalé, je serrais les mains du chef de bataillon, du Toubib, et regagnais par la route forestière les abris de ma compagnie. C'était une marche d'une centaine de mètres. La haie trait autour de moi rapprochait le peuple des arbres. Mais pas seul troublait le silence. De loin en loin, une houlée de vent, à travers la plaine de Vèvre, atteignait le musoir des collines et balançait des fumées de ramures sur de vagues scintillements d'étoiles. Prisonnier d'un monde inhumain, j'oubliais les bons compagnons qui partageaient la même misère, sentais tomber mes chaînes et retrouvais, dans un lointain monde d'hommes, les visages des amitiés, des tendresses. Rêverie lucide, consentement à une trêve précaire qui n'eût pu me leurrer au-delà de mes pas dans la nuit. Déjà, né du cœur de l'ombre, la silhouette de la sentinelle tachait la pâleur de la route, prenait forme, s'avançait vers moi. Nous échangeions le mot de passe. L'homme disait « C'est vous, mon lieutenant ?» Je répondais « C'est toi, Mounot ?» Je retrouvais notre abri souterrain, m'enfonçais sous le toit de Rondin. Mais dans l'encadrement du seuil, mon dernier regard s'attardait sur la pureté du ciel nocturne, sur une étoile entre toutes brillantes. Et, quand je glissais au sommeil, je sentais cette lueur qui veillait, fidèle et proche, dans la nuit exorcisée. Ainsi aurais-je vécu tout au long de ma vie terrestre. J'ai eu son âge, nous avons accordé nos pas, mes joies, mes peines, mes espoirs, mes désillusions, ce que j'ai cru et ce dont j'ai douté, mon travail, mes regrets, mes silences. Tout ce qui fait la trame de cette longue vie d'homme sur la terre, elle y a été mêlée, elle l'a vécu indissolublement. Réconcilié, ai-je dit, avec les âges de ma vie, il y suffit, depuis longtemps, d'un sourire, le sien, le mien, et que nous échangeons, elle et moi. N'est-ce pas, maman ?